Chapitre 36. Est-ce ainsi que naissent les pulsions? J'ai franchi la Seine par le pont de Brotonne, vers 1h du matin. J'ai ensuite alterné entre route nationale et route départementale. Les noms des bourgs normands que je contournais systématiquement défilaient sur les panneaux indicateurs éclairés par les phares de la Fiat. Pont-Audemer, Beuzeville, Pont-l'Évêque. Dans mon cerveau défilaient en boucle les pages que je venais de lire. Je ruminais la certitude que l'identité du tueur à l'écharpe rouge se trouvait dans la somme de ces détails liés au meurtre de Myrtille Camus. Qu'on ne me les livrait pas pour rien, que les preuves de mon innocence se tenaient là, à portée de main. Une illusion de plus. Mon ultime fuite jusqu'à Isigny-sur-Mer avait-elle le moindre sens? Mon téléphone sonna au fond de ma poche un peu avant l'entrée de Troarn. Il était presque 2h du matin. Pyrose, bien entendu. Je n'ai pas décroché. Pyrose avait hérité de l'affaire Avril Camus. On avait pris soin de me la prendre en me confiant cette enveloppe. Après toutes ces années, ce flic monomaniaque avait fini par trouver son coupable. Moi. Quelques secondes plus tard, un carillon m'indiqua qu'on m'avait laissé un message. Sans cesser de conduire, j'ai attrapé le téléphone. J'ai failli lâcher le volant de surprise. J'avais tout faux. Ce n'était pas un salopard de flic à mes trousses qui m'avait appelé, mais Ophélie. Une douce bouffée de chaleur me submergea. L'adolescente de l'Institut Saint-Antoine m'avait posté la photographie d'un type qui semblait avoir été découpé dans un magazine de mode. Regard bleu acier, crâne lisse, chemise blanche ouverte et sourire carnassier. « En direct du Césars », précisa un bref commentaire sous la photo. « 20 sur 20 ?» Cela m'arracha un sourire. J'ai tapé ma réponse en aveugle sans même ralentir. « Trop beau, méfie-toi des apparences. » Moins d'une minute après, Ophélie répliquait. « Connard, et toi, t'en es où avec ta jolie rousse ?» Mon cœur chavira. Ma jolie rousse. Mona. L'image de son corps chaud contre le mien s'imposa sans prévenir. Son corps sans doute déjà emballé dans une bâche plastique, à l'arrière d'une bagnole de flic en route vers la morgue. J'ai résisté à l'envie de balancer le téléphone par la vitre, de hurler dans le silence de la nuit, d'appuyer encore sur l'accélérateur et de foncer sur le premier platane. Je me suis contenté de coincer le portable sous mes cuisses et de me concentrer sur la route. J'approchais de Caen et je devais éviter d'emprunter la rocade. La Fiat 500 entra dans le village de Grand-Camp-Mézy un peu avant 3h du matin. Omaha Beach, route de la liberté, indiquait depuis quelques kilomètres des panneaux invitant au pèlerinage entre blocos, trous d'obus, cimetières et musées du débarquement. Route de la liberté, relisais-je dans ma tête. Drôle de nom pour une cavale sans espoir. Je me suis garé sur le parking de l'église et j'ai déplié une carte routière de la Normandie. Isigny-sur-Mer se situait à 3 kilomètres de la plage de Grand-Camp-Mézy, mais je recherchais un lieu plus précis, les grandes carrières, le hameau où, selon les rapports de police, le corps de Myrtille Camus avait été retrouvé le 26 août 2004. Mon doigt identifia l'endroit. J'ai bu une nouvelle tasse de café, tiède, tout en levant les yeux vers l'église, le seul édifice éclairé dans le village. Étrange, moderne, rasée en juin 44, bien entendu, puis reconstruite à la va-vite, un cube de béton flanqué en guise de clocher d'une cheminée grise percée de meurtrières. Même à la Courneuve, les églises avaient plus de gueule. Même à la Courneuve. Une certitude me traversa soudain, comme si quelqu'un avait projeté un hologramme à l'intérieur de mon cerveau. J'avais déjà vu cette église. Tout au long de la route, des bribes de souvenirs m'étaient revenues. Ce nom de village, Grand-Camp-Mézy, ce paysage de haies et de maisons en pierre de Caen, ces toits d'ardoise, cette célébration du débarquement de juin 44 à chaque carrefour, mais ma mémoire était parvenue à les maintenir sous une bulle de verre opaque. Une bulle que ce clocher avait brusquement crevée. J'avais déjà vu cette église. Une fois. Il y a longtemps. Chaque détail me revenait à présent. C'était l'été. Comme tous les ans, j'encadrais un camp à Clécy, en Suisse normande, près de Falaise, à plus de 100 kilomètres de Grand-Camp-Mézy. Escalade, canoë, rando. Les gosses qui revenaient au centre de loisirs de la communauté d'agglomération pleine commune étaient toujours les mêmes, des mômes de la Courneuve, d'Aubervilliers ou de Villetaneuse. Au total, plus de 500 gamins répartis dans une dizaine de camps en France, dont deux en Normandie, celui de Clessy, le mien, et un autre au bord de la mer, ici, à Grand-Camp-Mézy. La mer, ce n'était pas trop mon truc, mais cette fois-là, un animateur du camp voile avait eu besoin de sa journée, l'enterrement de sa grand-mère ou un truc dans le genre. Je me souvenais seulement qu'ils avaient galéré pour trouver un remplaçant à la journée. Comme j'avais un peu d'expérience, on m'a demandé de m'y coller. J'avais fait l'aller-retour dans la journée. Il ne s'était rien passé de spécial à Grand-Camp-Mézy. Baignade dans cette putain d'eau gelée, drague entre ados sur la plage, recadrage de quelques petits caïds. Ce remplacement express m'était sorti de la tête depuis des années. Sans cette église de béton, jamais je ne m'en serais souvenu. J'ai fermé les yeux. Retrouver la date exacte de mon passage ici relevait de l'impossible. Il faisait beau puisqu'on s'était baigné. C'était plutôt la fin de l'été. Cela remontait au moins à une dizaine d'années. Mes doigts se crispèrent sur la carte routière. Fin août 2004? Le jeudi 26 août, pour être plus précis? Le jour du meurtre de Myrtille Camus? Impossible. Les flics avaient bouclé la zone dès la découverte du cadavre. Les journalistes s'étaient précipités dans le coin. Si je m'étais trouvé à Grand Camp, fin août 2004, à quelques kilomètres du lieu où une fille avait été retrouvée violée et assassinée, les ados n'auraient parlé que de ça. Je m'en serais forcément souvenu. J'ai ouvert les yeux et observé sur la carte les bâtiments du hameau des Grandes Carrières. Quatre minuscules rectangles noirs. Sauf que l'affaire Camus n'avait été rendue publique que le lendemain du meurtre. Les flics avaient tenu un embargo de 24 heures avant de prévenir les médias. Je n'avais pas couché sur place, j'étais reparti en Suisse normande dès la fin de l'après-midi. Cette histoire de viol aurait pu exploser quelques heures après mon passage à Grand Camp, je m'en serais foutu. Je n'en aurais même pas entendu parler, j'étais à Clessy et on vivait presque coupé du monde, sans journaux ni télé. L'église de béton illuminée dans la nuit me narguait, obsédante, aussi terrifiante que le mirador d'un camp de concentration. Serait-ce possible ? Mes mains tremblantes tentaient sans y parvenir de replier la carte routière. Serait-ce possible que j'aie croisé Myrtille Camus ce jour-là, sur la route d'Isigny, près des Grandes Carrières? J'avais sans doute la camionnette du camp de la communauté d'agglos de Pleine Commune, un vieux Renault Trafic. J'ai froissé la carte d'un geste nerveux et je l'ai jetée sur le siège passager. Serait-ce possible que je me sois arrêté, que je l'ai violé, puis étranglé, puis que ma mémoire en ait effacé toutes les traces? J'ai bu à nouveau du café, directement au goulot de la thermos cette fois, et j'ai démarré la voiture. Après Haussmannville, je me suis engagé dans le chemin de la ferme des Carrières. J'ai laissé sur ma droite une grande bâtisse normande, poutres et torchis, volets bleus fermés, pour continuer jusqu'au bout du chemin de terre. Une nouvelle certitude. Jamais je n'étais venu là. Les phares de la Fiat 500 éclairèrent les alentours. J'ai pris le temps de scruter le moindre détail dont je pourrais me souvenir. Un indice quelconque qui confirmerait cette folie. J'étais venu ici 10 ans auparavant. J'y avais abandonné le corps d'une fille de 20 ans après l'avoir assassinée. Où exactement? Au fond de cette petite carrière blanche creusée dans le calcaire? Dans ce bosquet de noisetiers? Un peu vers l'ouest, au pied de cette minuscule chapelle de schiste, cernée par les racines d'un if centenaire? Quelques mètres plus loin encore, dans l'un de ces champs clos de haies vives? Ou tout au bout du paysage, le long du canal de la Vire, qui courait sur 2 kilomètres d'Isigny à la mer? Dans le halo pâle des phares, la campagne endormie ressemblait à un paysage de Millet, mais sans l'angélus, sans les prières, sans les paysans levés à l'aurore. Sans témoin, à part une dizaine de vaches blanches et noires, sans doute déjà là à brouter la même herbe 10 ans plus tôt. Témoin muet et indifférent. Je me suis garé sous l'unique réverbère du hameau, une 50aine de mètres avant la ferme, puis je suis descendu de la Fiat. Je m'attendais presque à ce que l'une des vaches se tourne vers moi, me reconnaisse et me jette un regard accusateur. Je devenais fou. Je ne me souvenais de rien. J'ai marché droit devant. Il faisait froid, il n'y avait presque pas de vent. Je n'ai pas d'abord compris pourquoi je me dirigeais sur ma droite vers le sous-bois. J'ai un moment pensé qu'une sorte de mémoire fantôme me guidait, que mes pieds et mes mains allaient reproduire les gestes que ma conscience refusait d'admettre. Puis j'ai aperçu la lueur, les deux lueurs pour être exact. Deux torches brûlaient au pied d'un noisetier. Puis j'ai vu le tapis de pétales de fleurs au pied des torches. Puis j'ai vu l'ombre des deux écriteaux cloués sur le noisetier. Il m'était impossible de déchiffrer le moindre mot à cette distance. Je me suis approché. Les deux flambeaux brûlaient dans deux coupelles de porcelaine, sans doute remplies d'un liquide inflammable dans lequel deux mèches étaient plongées. Des pétales de pommier de toutes les nuances de rose dessinaient la forme de deux corps allongés. J'ai levé les yeux vers le tronc. Je savais déjà ce que j'allais lire sur les deux planches de bois. Morgan Avril, 1983-2004. Myrtille Camus, 1983-2004. Je suis resté immobile, sans même chercher à comprendre qui avait pu organiser cette mise en scène funèbre, ni depuis combien de temps brûlaient ces flammes, ni comment avaient pu fleurir ces pétales de pommier en plein hiver. Encore moins quel en était le sens. Je suis simplement resté immobile. Je ressentais une grande lassitude, comme si mes bras, mes cuisses, ma jambe s'étaient vidées de toute leur force. J'ai repoussé l'envie de m'allonger sur ces fleurs, d'y dormir, d'en finir ainsi. Tout était limpide. Morgan Avril, 1983-2004. Myrtille Camus, 1983-2004. J'avais tué ces deux filles. Acculé par les flics, ma raison avait explosé. J'avais déliré pour me protéger, inventé un suicide, des témoins, une fuite sans fin. J'avais entraîné Mona dans ma folie et elle l'avait payé de sa vie quelques heures plus tôt. D'autres innocents allaient mourir si je continuais à nier l'évidence. Les deux noms dansaient dans la lueur des flammes. Morgan Avril, 1983-2004. Myrtille Camus, 1983-2004. Mes yeux fiévreux ne pouvaient s'en détacher. Mes jambes chancelaient. J'étais perché sur deux allumettes de verre. J'allais attendre ici que les flics viennent me cueillir. Mon cerveau s'engourdissait. Je n'avais presque pas dormi depuis 3 jours, mais ce n'était pas seulement la fatigue qui m'aspirait dans une sorte de trou blanc cotonneux. C'était une digue qui se rompait. La dernière, la crue de sang versé pouvait inonder ma conscience. J'étais prêt. J'ai sorti le King Cobra de ma poche. Je l'ai tenu de longues secondes contre ma tempe. Mes doigts se crispèrent sur la crosse glacée, incapables de se plier davantage. J'ai jeté le revolver sur le lit de fleurs de pommier. J'attendrai mon jugement. D'autres m'apprendraient quel monstre j'étais.